Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Comme tous les jours, RFI vous donne la parole. Dans 30 minutes, ce sera la libre antenne, l'occasion pour vous tous de nous interpeller sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité. Vous êtes nombreux à souhaiter notamment revenir sur la situation en Algérie après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, des appels après les récents affrontements au nord du Burkina Faso, 62 morts entre dimanche et mardi, des réactions et des témoignages également qui nous arrivent du Mali sur les tensions communautaire, deux semaines après le massacre d'Ogossagou, ce massacre qui a choqué l'ensemble du pays et de la sous-région. Là aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Puis il y a d'autres sujets un peu plus légers, notamment sur le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid et le mercato d'été qui s'annonce déjà. En tout cas, Zidane y pense évidemment très très fort. Voilà quelques-uns des sujets qui nous arrivent au standard. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70, sans oublier également les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI. Je dis bien privilégié puisque si vous avez écouté le journal, il y a peut-être des choses qui vous ont échappé, vous avez peut-être besoin d'un complément d'information. Eh bien, la rédaction, tous les matins, répond à vos questions justement pour vous permettre d'avoir le maximum d'éléments afin de mieux comprendre les sujets qui vous intéressent. Et on va revenir sur le procès du coup d'État raté de septembre 2015 au Burkina Faso. Ce procès est en cours en ce moment à Ouagadougou. Malamine, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Côte d'Ivoire, vous êtes à Dabou, nous vous écoutons.
Depuis, bonjour à Juan et bonjour à tous les auditeurs du RFI. Et depuis le début de ce procès, des personnalités ivoiriennes sont citées. Je voudrais savoir s'il y a eu ingérence des personnalités ivoiriennes dans le cours d'État, pourrait-elle être jugée par la justice au Burkinabé? Pourquoi la défense refuse-t-elle l'utilisation des écoutes de la conversation entre les accusés et plusieurs autres personnes?
Oui, bonne question, effectivement, ces fameuses écoutes téléphoniques qui constituent la pièce maîtresse de l'accusation. Bonjour Yahya Boudani.
Bonjour Juan, bonjour Malamine.
Correspondant de RFI au Burkina Faso, vous suivez évidemment ce procès pour RFI. Malamine le disait à l'instant, plusieurs responsables politiques et militaires ivoiriens sont cités dans ce procès. Ils sont accusés d'avoir aidé le général Diendéré lors de son coup d'État raté de septembre 2015. Certaines de ces personnalités sont d'ailleurs mises en cause, notamment par ces écoutes téléphoniques. Peut-on imaginer, Yahya Boudani, qu'un jour ces personnalités soient jugées par la justice du Burkina Faso?
Alors, déjà, il faut souligner qu'en écoutant les enregistrements téléphoniques entre les présumés cerveaux du coup d'État, c'est-à-dire les généraux Diendéré et Bassolé, on entend des voix attribuées à des personnalités ivoiriennes. Certaines de ces personnalités donnent même leur nom au cours de la conversation. En tout cas, cette ingérence est relevée par le procureur et les avocats des victimes. Ils sont convaincus qu'il y a eu ingérence et même plus au plus haut sommet de l'État ivoirien. Alors, maintenant, quant à les entendre sur la question, cela demande une longue procédure. Au début de l'affaire, seul Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, était visé par un mandat d'arrêt international, mandat qui a par la suite été retiré et remplacé par une procédure dite de dénonciation. En fait, la justice burkinabé a présenté à la justice ivoirienne et aux autorités des pièces contre Guillaume Soro, et selon cette procédure, il faut attendre la fin du procès ici à Ouagadougou avant qu'une éventuelle procédure ne soit engagée contre Guillaume Soro en Côte d'Ivoire ou toute autre personnalité. Alors, si les présumés auteurs sont condamnés ici au Burkina Faso, obligatoirement la justice ivoirienne devrait entendre ces personnes concernées par ce dossier du côté de la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est la justice ivoirienne qui doit se saisir de l'affaire dans le cadre des accords entre les deux pays. En résumé, la justice burkinabé ne pourra pas juger elle-même ces personnes qui étaient en interaction avec les auteurs présumés du coup d'État. Mais si ces personnes sont reconnues coupables et condamnées sur le plan national ici au Burkina, la justice ivoirienne devra à l'obligation d'ouvrir une enquête sur une éventuelle complicité du côté de la Côte d'Ivoire.
D'accord, donc ce serait la justice ivoirienne dans ce cas qui se saisirait du dossier. Malamine nous parlait de ces écoutes téléphoniques, elles font partie des pièces à conviction. La défense, comme le rappelait Malamine, et notamment les avocats de Djibril Bassolé, réclament que ces écoutes téléphoniques soient retirées du dossier. Pour quelle raison ?
Mais la défense refuse l'utilisation des échos téléphoniques pour plusieurs raisons. Ces enregistrements n'auraient pas été ordonnés par un juge d'instruction. Alors, elles ont été faites selon les avocats de la défense de façon sauvage. Alors, les avocats exigent l'origine des documents et estiment que cela viole la vie privée des accusés. Or, le parquet martèle que c'est une œuvre des services de renseignement à Burkinabé, alors que la défense estime qu'il y a eu des manipulations, des modifications au niveau de ces fichiers. Ils disent que des montages ont été faits pour mettre en accusation leurs clients et qu'il n'y a eu aucune expertise pour comparer les voix des accusés et des voix qui sont présentées sur les bandes. Alors, ces écoutes constituent une pièce maîtresse du dossier. Leur maintien ou annulation aura un impact important sur la suite du procès et chacun le sait bien. C'est l'une des pièces, c'est l'une des preuves d'ailleurs contre les accusés. Donc, à travers ces documents qu'on a pu écouter, on a entendu à peu près comment certaines personnes ont réagi durant les événements, ce qu'elles ont proposé comme appui ou conseil ou autre stratégie pour contrôler les opposants au coup d'État. En tout cas, Rouen, ces écoutes sont des pièces à conviction contre les accusés et si la défense réussit à les faire écarter, ce sera une victoire d'étape, mais avec la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, la tâche devient de plus en plus difficile pour les avocats de la défense.
Oui, puisqu'il faut rappeler que les avocats de Djibril Bassolé ont saisi justement la Haute Cour de justice de la CEDEAO pour obtenir le retrait de ces écoutes téléphoniques. Mais finalement, la Haute Cour de justice de la CEDEAO a donné raison à la justice burkinabé. Elle peut continuer à utiliser ces écoutes téléphoniques. Merci beaucoup de toutes ces explications, Yahya Boudani. Malamine, bonne journée à Dabou. A-t-on répondu à vos questions, Malamine ?
Oui, merci bien.
Eh bien, bonne journée et un grand merci donc à Yahya Boudani, correspondant de RFI. 10h17 ici à Paris. Olivier Four, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, journaliste à RFI. Vous suivez, vous êtes spécialiste des questions militaires. Vous rentrez du Mali, vous étiez aux côtés des militaires français de l'opération Barkhane. On a pu entendre votre reportage cette semaine, ce qui a suscité des questions à Dakar, notamment notre auditeur Saliou. On n'arrive plus à le recontacter, Saliou. Donc, je vais me faire le porte-parole. Il nous a appelé cette semaine en disant, mais bon, il vous a entendu, il a compris que Barkhane annonçait son déploiement dans la région de Gourma.
Du Gourma, oui.
Exactement. Et il veut comprendre pourquoi les Français décidaient de s'implanter maintenant dans cette région, et notamment dans cette localité Gossi.
Oui, la base que nous avons, sur laquelle nous avons séjourné, est effectivement cette base de Gossi. L'idée de Barkhane, en fait, c'est de poursuivre ce qui a été effectué dans la région voisine du Liptako, c'est-à-dire, pour faire simple, la région de Menaka, et pour s'étendre à présent donc au Gourma, c'est plus à l'ouest, c'est à peu près sur la même bande, mais c'est plus à l'ouest, avec un peu la même méthode que celle qui a été employée donc vers Menaka depuis fin 2017, c'est-à-dire une approche par zone dans la durée, plutôt qu'une succession d'opérations de quelques semaines en différents points du territoire malien, comme on avait pu le voir précédemment avec Serval, puis le début de Barkhane. L'objectif affiché, c'est évidemment dans un premier temps de combattre les groupes terroristes pour arriver finalement à une stabilisation de la région, donc favoriser le retour des institutions, passer par une phase de développement de manière à faire en sorte, on sait bien, que les habitants de ces zones bénéficient de certaines avancées et ne soient plus tentés de prendre les armes, voire de rejoindre les groupes djihadistes. Dans les grandes lignes, voilà, ça c'est le schéma, c'est le schéma proposé.
Et c'est pour ça donc que Barkhane fait sortir en ce moment une nouvelle base à Gossi.
Oui, voilà. En fait, c'est pour être plus proche de sa nouvelle zone d'opération et d'être plus proche de la zone dans laquelle elle va devoir opérer dans la journée, dans la durée. En réalité, c'est pas une zone inconnue de Barkhane. Cette région, elle y est déjà allée, notamment au printemps 2017, avec de grosses opérations, opération Ponga, opération Bayard, dans la région de la forêt de Foulsaré. Puis encore, il y a quelques temps, on en a parlé beaucoup sur RFI, des opérations dans la région de la forêt de Serma. Donc l'idée, c'est d'avoir une base d'assaut, un point de départ, un point d'ancrage dans le Gourma, de manière à pouvoir rayonner dans la durée dans cette région du Gourma, où sont encore actives un certain nombre de katibas, la katiba du Gourma, la katiba de la forêt de Serma, j'en parlais, EI pour le Grand Sahara, qui est encore active dans une partie du Gourma, Ansarul Islam, qui opère, on en parlait, de l'autre côté de la frontière, cette fois-ci au Burkina Faso, puisque c'est une région frontalière avec le Burkina Faso, de la même manière que le Liptako était frontalier et frontalier avec le Niger.
Ouais. Saliou nous demandait pourquoi l'armée française, qui est présente au Mali depuis 2013, rencontrait autant de difficultés à restaurer la sécurité.
Alors, d'abord, la question, en fait, elle se pose pour l'ensemble des forces internationales qui qui opère en Mali, parce qu'il y a l'armée française, effectivement, il y a aussi la MINUSMA, qui pour le moment, donc la force de l'ONU, qui pour le moment aligne encore, je crois, de l'ordre de 12 000 hommes, de mémoire. Il y a les forces armées maliennes, les FAMA, qui sont sur le terrain, et qui ont considérablement remonté la pente depuis 2012, à ce qu'on nous dit. Il a quand même fallu reconstruire une armée, alors qu'en même temps, cette armée était amenée à combattre. Donc c'est pas simple. Donc là, les FAMA sont montées en puissance, et se déploient où elles le peuvent. Mais il y a effectivement des zones où il y a encore... où il y a un manque de sécurité, c'est évident, parce qu'on peut pas assurer 100% de la sécurité sur 100% du territoire. Le renseignement français estime que l'ensemble des Katibas, c'est encore un noyau dur de l'ordre de 1000, 1400 hommes, mais enfin, ces chiffres varient assez régulièrement. Beaucoup de chefs de Katibas ont été tués, ça c'est vrai. Beaucoup de Katibas ont été visés. Mais, on le constate, il y a de la part des groupes armés terroristes une forte capacité de régénération. C'est-à-dire qu'en fait, quand un combattant est tué, ben en fait, il est assez vite remplacé. Pas forcément vrai pour les chefs. C'est-à-dire que quand les chefs sont éliminés, il y a un certain temps où il faut que ces Katibas se réorganisent, réussissent à réorganiser leur structure de commandement, etc. Mais en revanche, pour les hommes, il y a une vraie capacité à se régénérer. Et puis, il faut bien voir que dans ces régions-là, région du Gourma, région du Liptako, région du Massina, dont on parle beaucoup, on assiste de plus en plus à un terrorisme endogène, local, c'est-à-dire en fait avec un recrutement et une formation locale. C'est pas vraiment la situation qu'on connaissait, par exemple, dans le nord du Mali, au début de Serval, où finalement c'était des groupes qui, pour certains, étaient issus du GSPC algérien, qui avaient élu domicile dans le nord du Mali, qui avaient passé des alliances, et c'était presque quelque part un terrorisme d'importation. Là, ça devient un terrorisme local.
On aura peut-être l'occasion d'en parler dans la libre antenne, justement, dans 20 minutes avec les auditeurs de RFI. Merci Olivier Four d'être venu répondre à Saliou, que nous saluons évidemment du côté de Dakar, où on nous écoute sur les 92 FM. D'autres questions à la rédaction? Question posée par Emmanuel. Bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Merci de nous appeler de Conakry. Des questions sur la lutte contre le vol de zébus à Madagascar.
Oui, Juan. Pendant la campagne présidentielle de novembre 2018 au Madagascar, le nouveau président de la République avait promis l'implantation de puces dans des zébus afin d'éviter leur vol, ce qui sera testé ce mois-ci. Ma question est de savoir pourquoi mettre en place une procédure aussi lourde pour éviter le vol des zébus. Comment ce système va-t-il fonctionner?
Ah, effectivement, c'est une bonne question. Des zébus dotés de puces électroniques, une promesse électorale dans Jacques Zoël, qui peut prêter à sourire. En tout cas, le projet est très très sérieux. Bonjour Laetitia Bezin.
Bonjour.
Correspondante bonjour. De RFI à Madagascar. Madagascar, où le vol de zébus est un fléau qui dure depuis maintenant de nombreuses années.
Oui, voilà, et les autorités, en fait, n'ont jamais pu arrêter ce fléau. Ça fait des années qu'elles tentent d'y mettre un terme en envoyant des militaires et des gendarmes dans les zones du pays les plus touchées par ce phénomène, en particulier l'ouest et le sud de Madagascar, sans succès. Pour donner quelques chiffres, 30 000 zébus ont été volés en 2017, d'après la gendarmerie nationale, mais surtout, ces 5 dernières années, ces vols de zébus ont fait 4 000 morts dans des affrontements qui opposent les voleurs de bétail aux villageois et aux forces de l'ordre. Les voleurs prennent même des habitants en otage, ils s'en servent de boucliers humains pour éviter qu'on les poursuive. Donc c'est une grande source d'insécurité dans le pays et dans les campagnes en particulier. Si vous allez à la campagne, tout le monde vous parlera des dahal, le terme malgache pour désigner les voleurs de bétail. En fait, le zébu à Madagascar, c'est vraiment ça, la richesse des gens. Ça vaut environ 200 euros, ce qui représente beaucoup d'argent ici.
Oui, le zébu, signe extérieur de richesse. Du coup, les autorités font face aujourd'hui à un véritable trafic.
Oui, parce qu'en fait, à l'origine, le vol de zébus, c'était une tradition villageoise des régions de l'ouest et du sud du pays. C'était un moyen pour les hommes de prouver leur virilité. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Rwanda, c'est un véritable trafic qui s'organise souvent avec la complicité de certains membres des forces de l'ordre ou membres de l'administration qui fournissent des faux papiers d'identité pour le bétail volé. Donc cette puce électronique, c'est une solution qui semble être plus efficace que l'envoi de forces de l'ordre, ou en tout cas, qui complète l'envoi de forces de l'ordre pour lutter et mettre un terme à ces vols de cheptel.
Alors, Emmanuel nous demandait comment ce système de puces électroniques allait-il fonctionner.
Oui, alors en fait, cette puce, elle va être implantée dans l'estomac du zébu. Elle permet deux choses. D'abord, d'enregistrer l'identité du zébu. C'est plus facile de falsifier, c'est plus difficile, pardon, de falsifier une puce électronique qu'une fiche d'identité papier. On va inscrire dans cette puce la couleur de l'animal, ses caractéristiques, son origine et le nom de son propriétaire. Donc, lors des contrôles, les gendarmes vont pouvoir vérifier, grâce à ce dispositif, à qui appartient vraiment les zébus. L'autre chose, c'est que cette puce, elle est dotée d'un tracker GPS. Donc, lorsque l'éleveur va se faire voler son cheptel, il va pouvoir envoyer un SMS à la puce électronique qui va répondre, hein, en envoyant les coordonnées géographiques exactes de l'endroit où se trouvent les zébus volés.
Voilà, donc système très original, système testé depuis le début de la semaine à Madagascar. Merci beaucoup, Laetitia Bezin, d'avoir été avec nous. Emmanuel, bonne journée et excellente fin de semaine à Conakry. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter dans la capitale guinéenne. La dernière question de la semaine nous est posée par Elias. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RFI.
Merci de nous appeler du Bénin, nous vous écoutons.
Monsieur Juan, le président américain Donald Trump a accusé le Mexique d'une nation dans la lutte contre l'immigration illégale et menace de fermer les frontières entre les pays si la situation ne change pas. Donald Trump a déjà menacé le Mexique de la même manière en décembre. Pourquoi recommence-t-il aujourd'hui ?
Ah, il a recommencé la semaine dernière. Il est de nouveau revenu sur cette menace, effectivement, mardi. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
On a 2 minutes 30 devant nous. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. Le président Trump qui accuse le Mexique de ne pas s'impliquer suffisamment dans la lutte contre l'immigration illégale ?
Oui, puisqu'il faut rappeler en fait que depuis l'administration Obama, le Mexique a été responsabilisé et aidé financièrement également par les États-Unis pour stopper les immigrants avant qu'ils n'arrivent à la frontière des États-Unis. Et Donald Trump reproche au Mexique de ne pas faire sa part du contrat, puisque le mois dernier, on a atteint un nombre record de 100 000 interpellations de personnes entrées illégalement qui ont été arrêtées à la frontière des États-Unis. Et c'est pour ça que Donald Trump a ressorti cette menace de fermeture de la frontière.
Ouais. Techniquement, c'est possible ou pas de fermer la frontière ?
Alors, pas de la fermer entièrement, bien sûr, parce qu'il y aura toujours des franchissements clandestins, mais ce qui risque de se passer, ce qu'il pourrait faire, c'est de déplacer les personnes qui contrôlent les entrées légales, dans ce qu'on appelle les portes d'entrée, hein, aux portes d'entrée légales, et de déplacer les personnels de la police aux frontières sur des missions d'interception des clandestins. Et à partir de là, évidemment, on comprend bien que les portes d'entrée légales seraient fermées, ce qui amènerait un chaos complet dans les relations commerciales et économiques.
Bien sûr, le Mexique évidemment essaye d'éviter une confrontation avec les États-Unis. Ça signifie quoi ? Que le Mexique essaye de répondre le mieux possible aux exigences de Donald Trump en matière d'immigration illégale ?
Oui, bien sûr. C'est surtout un moyen pour Donald Trump de mettre la pression de manière permanente envers le Mexique et d'obliger le Mexique à être en quelque sorte un obligé des États-Unis pour la politique migratoire.
Effectivement. Elias, est-ce qu'on a répondu à votre question ? Elias ? Ah, bon, bon, très bien. Bon, Elias, on me dit que oui, mais il y a un petit problème avec le bouton, mais tout va bien. Merci beaucoup, Corentin Célin, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle d'ailleurs le titre de votre dernier ouvrage, Les États-Unis et le monde de la doctrine de Monroe à la création de l'ONU. C'est aux éditions Atlante. D'autres questions à la rédaction lundi matin. D'ici là, vous nous appelez. Nous ne serons pas au bureau, évidemment, mais le répondeur est là. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. 33 9 693 693 70. Et on sera un plaisir d'écouter tous vos messages lundi en arrivant. La libre antenne, c'est à suivre juste après le journal. Et allez chercher un stylo et un morceau de papier. Vous qui nous écoutez et qui parlez le mandingue ou le peul, je commencerai la deuxième partie en vous donnant une information, un nouveau rendez-vous que vous propose tous les samedis et dimanches l'antenne de RFI. Donc voilà, j'en dis pas plus, c'est juste pour mettre un tout petit peu de suspense. À tout de suite.